Je continue mon exploration autour de la question « Quel lieu pour enseigner l'architecture ?» et je suis maintenant avec Pascal Simons, un habitué de nos podcasts. Salut Pascal.
Bonjour à tous.
Tu vas bien ?
Ça va bien, oui. C'est une fin de journée, mais on continue à travailler.
Jusqu'au bout.
Dans le bien commun.
Jusqu'au bout. Alors, avec Pascal, je vais aborder la question plus spécifique en fait de la co-construction autour de ce lieu pour enseigner l'architecture. On l'a vu, c'est une caractéristique quand même assez importante, cette co-construction, dans ce nouveau lieu qui va être, non pas construit, mais en tout cas rénové à, je ne sais pas si je peux employer ce mot-là, à Mons. Et derrière ce processus de co-construction, avec Pascal, j'aimerais aborder plus spécifiquement la question de l'influence des réseaux sociaux sur un processus de ce type. Alors Pascal, c'est le sujet de ta recherche, l'influence des réseaux sociaux sur les projets architecturaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire concrètement sur quel rôle peuvent jouer les réseaux sociaux sur un projet architectural tel qu'un lieu pour enseigner l'architecture ?
Bah, si on fait l'analogie avec les réseaux sociaux, on a toujours l'habitude de dire « oui, mais la participation citoyenne, c'est le café du comptoir, dixit Umberto Eco ». Mais plus profondément, comme tu parlais de ma recherche, moi j'essaie de démontrer qu'en fait la participation citoyenne, peut-être qu'aujourd'hui, devrait être transformée et traitée différemment, et d'intégrer en fin de compte une kyrielle de signaux faibles qui peuvent venir d'un peu partout et qui sont des éléments constitutifs du projet. Alors avec le bureau facultaire, on a réfléchi à cette question après la problématique qu'il y a pu y avoir, c'est-à-dire le premier projet qui n'a pas abouti au 88 rue d'Avray, c'est de se dire, mais une des raisons est probablement la difficulté de communiquer avec l'ensemble des habitants autour et alentour. Alors il y a des aspects institutionnels, il y a des aspects liés aux enquêtes publiques et autres, qui fait qu'on ne peut pas non plus communiquer à tort et à travers, mais ce défaut de communication a été reconnu à peu près par de nombreux acteurs de ce projet. Et y compris, en fin de compte, avec nos étudiants qui, dans le cadre du concours, n'étaient pas toujours au courant de l'évolution du projet et autres, et se sentaient un peu déconnectés. Et donc, la première co-construction, c'est le foirage du précédent projet qui nous a appris à grandir sur cette problématique-là. Et donc, un peu naturellement, on s'est dit, travailler sur le bâtiment du boulevard de Lée nécessite qu'on ait une participation ou une co-construction. Je ne sais pas encore quels sont les termes, puisque c'est un projet qui est en construction commune. Mm-hmm. Mais en tout état de cause, c'est de pouvoir se dire qu'on va commencer à essayer de travailler tous ensemble. Non pas pour définir le programme, parce que je pense que là, il y a des spécialistes qui sont capables de le faire, mais c'est de donner en fait une coloration à ce programme pour savoir comment enseigner demain l'architecture dans un bâtiment classieux, ancien, où il y a une autre faculté qui est déjà présente, et donc comment co-construire avec la faculté polytechnique. Donc il y a plein de co-constructions qui se mettent ensemble. Alors je ne sais pas si on va utiliser les réseaux sociaux pour régler cette co-construction. On sera surtout, à mon avis, dans des relations humaines. Mais je pense aussi que cette co-construction, et c'est un sujet qu'on devra aborder à un moment ou à un autre, c'est que dès que cette co-construction sera mise en place, on devra peut-être aussi communiquer énormément avec les riverains, les gens qui habitent derrière le bâtiment, qui habitent le long du boulevard, pour savoir ce qui va se passer dans cette transformation qui sera non négligeable avec de nouveaux utilisateurs.
Est-ce que justement les réseaux sociaux peuvent permettre d'identifier d'une certaine façon les craintes, ou en tout cas comment se cristallisent les craintes des riverains autour d'un projet architectural au final ?
En tout cas, les différentes études que j'ai pu mener sur Mons montrent que chaque projet, chaque œuf fait du neuf. C'est-à-dire que chaque projet génère de nouvelles craintes avec un microcosme social autour du projet, mais avec des attentes qui sont parfois plus importantes et qui sont à l'échelle même de l'agglomération dont on parle. Ça peut être Mons, ça peut être Charleroi, ça peut être Bruxelles. Et donc, les réseaux sociaux sont aussi des éléments qui peuvent mettre en exergue des choses qui ne sont pas discutées de vive voix autour d'une bière, mais bien des choses auxquelles on a vraiment des craintes, et peut-être que les réseaux, si on arrive à trouver le bon moyen de communication avec les riverains, les réseaux nous permettront de voir que les gens sont prêts à accepter plein de choses pour autant qu'ils aient la garantie que ce bâtiment soit rénové de manière hyper écologique ou que sais-je. Enfin, aujourd'hui, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a certainement des sujets qui parleront aux gens, mais qui ne sont pas nécessairement exprimés comme tels sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle des objets ex-existants, subsistants dans l'inconscient collectif.
Tu me le disais aussi lors de la petite discussion de préparation, l'image joue à l'heure actuelle un rôle fondamental dans le projet architectural.
L'image va inévitablement jouer un rôle non négligeable et les architectes, c'est le premier art et c'est un art graphique. Je veux dire, la construction, c'est d'abord une image, tout le monde a en tête le Panthéon, le Palais de justice de Bruxelles, l'architecture, c'est présent. Le rêve de tout architecte, c'est de faire une faculté d'architecture ou une école d'architecture. Ici, on est dans un processus qui est un petit peu différent, puisque en fin de compte, cette co-construction fait qu'il n'y aura pas nécessairement une identité architecturale forte, mais il y aura peut-être une autre image, c'est-à-dire la manière dont la machine dolée, entre guillemets, fonctionnera et qui générera par elle-même, peut-être de manière un peu plus atypique, une image par la manière dont on l'utilise plutôt que par la manière dont on l'exprime à l'extérieur. Cela étant, je pense que les étudiants, les professeurs, les futurs architectes qui travailleront sur ce projet auront probablement l'envie de marquer un petit peu le fait que c'est une faculté d'architecture. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour donner une identité d'architecture. D'ailleurs, il y a pas mal de facultés d'architecture dans le monde où, même si l'architecture est présente, évidemment, parce que ça a été construit, c'est plutôt la manière dont ça fonctionne qui fait l'identité propre de la fac d'archi. D'ailleurs, il faut remarquer que pas mal de facultés d'architecture dans les universités se retrouvent dans des vieux bâtiments et pas dans des bâtiments contemporains. C'est faux en France, mais c'est vrai dans plein de pays anglo-saxons où il y a souvent des campus, et dans les campus, parfois récents, on a un vieux bâtiment, et c'est là-dedans qu'on est allé foutre les gens qui travaillent sur l'architecture.
Et donc, il y a quand même pas mal d'enjeux et pas mal de défis à relever sur ce nouveau projet pour la faculté d'architecture à Mons. Comme tu nous l'as dit, les réseaux sociaux joueront un rôle dans ce processus à un moment ou à un autre. Ce sera un espèce de tiers parti, un troisième parti intervenant dont il faudra tenir compte. En tout cas, Pascal, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et de mon côté, je continue mon investigation pour essayer d'avoir l'image au final la plus claire de quel lieu est idéal pour enseigner l'architecture aujourd'hui dans une université. Un tout grand merci, Pascal.
Au revoir et à bientôt.